Vous écoutez Fréquence Missile, il est 11h et vous retrouvez François Malabave pour la deuxième émission des correspondances. Bonjour François.
Bonjour Emeline, bonjour à tous. Une belle émission pour cette deuxième émission des correspondances 2016 avec quelques incertitudes sur les invités que nous attendons avec grande impatience. Ainsi par exemple Camélia Jordana qui sera là normalement, Kassem Wapalek qui va nous rejoindre et puis JP Nataf et Maëva Lebert qui vont nous rejoindre aussi, Julien Delmer devrait arriver également. Et on va démarrer avec la première invitée qui, elle, est à l'heure et ça me fait plaisir de la recevoir ici même en direct pour cette émission. Il s'agit de Claire Zara, qui est la directrice des médiathèques de la DLVA, la Durance Luberon Verdon Agglomération. Bonjour Claire.
Bonjour François.
Vous êtes en charge de cette opération des médiathèques de la DLVA. On peut rappeler combien il y a de médiathèques et sur quel territoire ?
Il y a 20 médiathèques sur un territoire qui compte 26 communes. Ça fait un maillage assez dense de bibliothèques sur la DLVA. On s'étend de la commune de Corbières jusqu'à La Brianne, le Castellet, et puis toutes les petites communes près du Verdon, autour de Gréoux-les-Bains.
Avec des employés qui sont des professionnels sur chacune des médiathèques ou il y a aussi des bibliothèques pour tous ?
Alors, j'ai envie de dire que tous sont des professionnels. La distinction, il y a des salariés et des bénévoles.
Voilà, c'est là la distinction.
Il y a 6 bibliothèques seulement sur les 20 qui emploient des salariés, deux uniquement qui n'ont aucun bénévole, sinon toutes les autres fonctionnent avec des équipes entièrement constituées de personnel bénévole ou mixte salariés et bénévoles.
Pour ce qui est de Manosque, alors il y a deux entités, on va dire trois entités avec le Paraïs, qui est la maison de Jean Giono, dont on parlera vendredi, demain donc avec Jacques Méni. Les deux entités, c'est bien sûr la médiathèque d'Herbès, que vous avez dirigée et que vous continuez à diriger, et puis le centre Giono aussi, où vous êtes présente avec une belle coordination d'activités et de personnalités autour de ce centre.
Tout à fait, l'idée c'est de réunir dans un même service, qui est le service de la lecture, les établissements qui ont vocation à promouvoir le livre, les auteurs, les écrivains.
Avec votre service qui est installé au centre Giono, le centre Giono lui-même, mais aussi l'association Éclat de lire et bien sûr les correspondances.
Et on pourra travailler ensemble sur une nouvelle configuration de tous ces équipements pour les ancrer réellement dans ce service de lecture.
C'est une proximité physique qui est utile ?
C'est une proximité physique qui est propice.
Donc qui fonctionne bien, on le sent bien avec
c'est
les,
tout neuf,
avec
c'est tout
les
neuf,
collègues, c'est vrai.
Mais ça part bien, oui, tout à fait.
Alors, vous avez parlé de lecture, évidemment, on peut dire que la lecture publique, c'est quelque chose d'important à Manosque, c'est un choix important du service culturel, du service de développement culturel, et on peut dire que vous êtes madame lecture publique ici même.
Si vous le dites.
c'est pas une blague, parce que c'est vrai que d'abord, un, c'est votre métier, deux, je le sais pour vous connaître un petit peu, vous adorez les livres. Trois, vous aimez aussi les écrivains et vous aimez les contacts et notamment ceux qui se déroulent pendant les correspondances de Manosque. Et bien sûr, vous êtes aussi une chef de service. Donc vous avez, vous avez des petites mains autour de vous qui sont des gens passionnants et des gens passionnés. Je pense notamment à Sylvie Peson et Nathanaël Coriol qui en ce moment même animent les apéros littéraires depuis plusieurs années avec beaucoup de talent et beaucoup de passion. Et aussi avec un esprit particulier que l'on ne trouve pas dans certains journalistes professionnels qui, eux, sont des habitués de la chose. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui rajoute à leur activité une espèce de fraîcheur qui est passionnante.
Ça crée une grande émulation. Et puis, pour revenir au début de votre propos, c'est vrai que j'adore ça.
Oui.
J'y suis pas forcément venue par la lecture, plutôt par l'aspect patrimoine des bibliothèques. J'ai démarré comme ça, mais comme grande lectrice aussi. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire les deux, travailler dans les livres et dans la lecture publique. C'est une grande passion. Et que les bibliothécaires s'emparent à ce point du Festival des correspondances, ça fédère les publics, ça fédère nos lecteurs, ça crée un ancrage important sur le territoire. toute l'année, pas que pendant le festival. C'est un travail qui est fait de janvier à décembre et qui trouve là son point d'orgue pendant le festival et pendant les apéros.
Et en même temps, c'est entièrement naturel. Enfin, ça me paraît, moi, tellement logique que les médiathèques du territoire s'intéressent aux correspondances, voire y participent, puisqu'avec, je l'ai dit tout à l'heure, Sylvie et Nathanaël, donc on a des personnes qui sont importantes et qui jouent un rôle actif dans les correspondances. Les comités de lecture aussi, par exemple.
Oui, il n'y a pas besoin de leur demander de participer. Tout le monde participe de façon complètement naturelle, en fait. Et dans toutes les bibliothèques de la DLVA, bénévoles, salariés, tout le monde s'empare du festival parce que c'est un moment qui crée, voilà, cette émulation littéraire, on a envie de partager des choses avec nos lecteurs, on est fiers de recevoir ce festival sur notre territoire et d'en être les acteurs.
Avec beaucoup de plaisir également, donc c'est plus qu'un travail, quoi. C'est vraiment le travail plaisir et une volonté de participer à un événement un peu particulier qui est ce Festival des Correspondances. Vous n'avez pas assisté aux premières manifestations des correspondances, Claire, vous êtes, on va dire, relativement nouvelle sur ce territoire. Quel regard vous portez, un regard neuf qui peut nous intéresser sur ce festival?
J'ai assisté quand j'étais toute jeune, parce que j'étais lycéenne à Pertuis, c'est pas très loin. Et c'était grandiose quand j'étais lycéenne. Pour moi, venir à Manosque pour les correspondances, c'était quelque chose d'incroyable. Je me rendais même pas compte de la distance, finalement, qui est pas très grande avec Pertuis. Mais pour moi, c'était vraiment aller dans une très grande ville où il y avait un très grand festival, alors que c'est des villes de taille équivalente.
En tant que lycéenne, c'est un moment qui a été, motivant pour la suite de votre carrière.
Peut-être.
Hein, ça
J'en ai pas fait l'aveu à ce moment-là, mais peut-être, effectivement. Et puis, par contre, c'est un élément qui a intégré ma décision de venir ici, clairement. Le poste d'abord à la médiathèque de Vinon, puis maintenant sur le réseau des médiathèques, il y a une grande partie de motivation qui est liée au Festival des Correspondances.
Et pourtant, ça ne dure a priori que 4 jours.
Ça suffit. Hein
Ça suffit, mais en même temps, vous le savez bien, je ne vais pas vous l'apprendre, le travail de l'équipe des correspondances, il est étalé sur toute l'année, sur 365 jours. Il y a des résidences, et on va en parler tout à l'heure avec Julien Delmer. Il n'y a pas uniquement les spectacles et les rencontres qui se déroulent pendant le festival. Il y a les comités de lecture, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a parfois aussi même des productions qui sont faites par les correspondances, en tout cas qui sont innervées. On va certainement parler de Frères Animal prochainement sur notre antenne avec Arnaud Catherine et Florent Marché. Et c'est un spectacle qui est quasiment né à Manosque, donc c'est une bonne chose. La fantaisie littéraire, ce fameux livre qui a été réalisé par notre amie Fabienne Pavia du Bec en l'air, tout ça est né à Manosque. C'est une belle chose. Vous voyez comment toute cette dynamique autour des médiathèques et évidemment des livres que vous adorez?
Je voulais rajouter aussi, si vous me permettez,
oui.
Recevoir les correspondances à Manosque, c'est aussi voir comme le territoire a envie de cette vocation littéraire et culturelle qu'on lui donne. Ça aussi, c'est dans notre... Pour revenir à votre deuxième question et la rattacher, la motivation qu'on a à travailler sur ce festival, elle est là aussi. Quand une agglomération ou une ville de la taille de Manosque reçoit sur son territoire et accepte de mettre ses moyens techniques, son théâtre à disposition, tout ce travail qui est assez lourd et compliqué à mettre en place, eh bien, on se sent soutenu aussi. Et je pense que toutes les équipes vivent le festival aussi comme une marque de soutien de notre collectivité pour faire le travail qu'on aime faire.
Ce qui explique leur investissement personnel dans cette opération, avec la volonté aussi de dire, j'ai l'habitude de dire, pour ce qui me concerne en tout cas, que dans notre quotidien habituel manosquin, c'est un ballon d'oxygène extraordinaire, quoi. Quand on a les correspondances qui arrivent, on sait qu'il va y avoir des rencontres. J'ai fait la connaissance hier de Julien Delmer, qu'on va écouter dans un instant. C'est un personnage passionnant. Et il y a comme ça des musiciens, des artistes, des comédiens et bien sûr des auteurs qu'on a le plaisir de côtoyer dans un élément favorable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cabinet parisien étouffé par une certaine torpeur ou par des besoins marketing particuliers. Non, là, on a tout de suite envie de discuter avec les gens, et si ça passe pas, ben on va passer à quelqu'un d'autre, hein, c'est tout, hein, on va pas se faire de mourant avec ça. On va soit on accepte les conditions de ce festival qui est un festival convivial, soit on passe à côté, tant pis. Et moi j'ai pris le pari depuis déjà une quinzaine d'années de jouer le jeu professionnellement avec ce festival, en regrettant que beaucoup de manosquins n'y participent pas. Donc c'est vrai que j'entends avec beaucoup d'intérêt votre langage qui dit oui, on est tous mobilisés pour pouvoir intéresser les habitants de la DLVA et les motiver vers ces spectacles, vers ces rencontres, vers ces lectures, que vous pouvez prolonger d'ailleurs par la suite, puisque tous les livres des auteurs qui sont présents sont disponibles sur les étagères des médiathèques.
Ils sont disponibles, les comités de lecture en parlent. On recevra Julien Delmer aussi, qui est l'auteur en résidence dans les médiathèques, pour des rencontres avec nos lecteurs, pour des échanges, peut-être des ateliers d'écriture. Enfin, il y a tout ça à construire. Et toute l'année, effectivement, les lecteurs préparent, des fois sans le savoir, ce que seront les correspondances.
Donc vous les testez ?
Oui.
C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et en même temps, c'est vrai que, je le disais, un lecteur, il est complètement indépendant. Il n'est pas du tout dans la logique des maisons d'édition, des maisons de production. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est le texte et ce qu'il ressent. Le reste, bon, on s'en fiche un petit peu, heureusement. Donc on a cette indépendance et cette clarté au niveau de l'esprit, donc on en profite. Vous parliez des résidences, comment ça se passe avec les résidents? Vous avez accueilli Pierre Ducrozet cette année, par exemple.
Pierre Ducrozet, Sylvain Prudhomme l'année précédente,
oui.
Ils reviennent. Donc je pense que ça se passe très bien et c'est très agréable de les voir pendant... Alors, Sylvain Prudhomme vient aussi parce qu'il a une actualité littéraire, mais il était là aussi l'année dernière, il vient avec beaucoup de plaisir. Des auteurs du festival reviennent dans les médiathèques pour des rencontres. Donc ces résidences se passent drôlement bien. Je crois que les auteurs sont bien à Manosque, ils sont bien reçus. On adore partager ces instants avec eux.
Et maintenant, je vais vous poser une question piège, Claire.
Aïe.
Quel est parmi les auteurs ou les publications qui sont maintenant programmées lors des correspondances 2016, quelle est celle qui vous a le plus marqué ?
Dans les auteurs, hein ?
Chez les auteurs, et,
chez les auteurs.
Ou chez les livres qui
Alors,
sont proposés.
Alors, il y en a plein que je n'ai pas lus.
Allez, deux ou trois.
Il y en a plein que je n'ai pas lus. J'ai beaucoup aimé L'absente de Lionel Duroy. J'essaierai de me libérer vendredi soir pour aller l'écouter. Mais je crois qu'il y a un changement. Enfin, non, c'est vendredi soir. Et, mm-hmm. 14 juillet également.
Éric Vuillard.
Tout à fait. Je suis en train de terminer Carré de Ferré, son dernier roman. J'aime beaucoup aussi. Et puis Sylvain Prudhomme.
Évidemment. Le petit chouchou.
Mais j'en oublie. Enfin, bon, j'en ai plein encore aussi à lire, donc interrogez-moi dans 15 jours, ça aura peut-être changé. Mais,
oui, ou dans 3 mois. On prend le temps. Hein. Vous savez, nous, on prend le temps aussi.
Moi, il n'y a pas d'urgence. Et puis j'aime bien lire après avoir rencontré les auteurs, après avoir assisté aux rencontres, en fait.
Et vous,
j'aime bien le faire aussi dans ce sens.
Et lire dans l'autre sens, effectivement, pour préparer un entretien, ça...
Ah, quand j'ai à le faire, bien sûr. Ouais. Lire, relire, relire, relire.
C'est une contrainte ou c'est un plaisir ?
Ça dépend du livre.
Ouais.
Non, c'est
on dira pas des noms.
C'est souvent un plaisir.
Et puis, je suppose aussi que vous pouvez aller de temps en temps dans des spectacles.
Oui.
Nous étions hier soir, d'ailleurs, à côté, lors du spectacle de Camélia Jordana. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
J'étais sous le ravissement.
Oui.
Je suis sortie très, très souriante, pleine d'espoir, même si le texte est grave et triste. Elle est incroyable, elle a une voix superbe. Les chansons étaient très belles, sa lecture était juste. C'était un beau moment et Olivier Chaudenzon nous avait dit qu'il nous faisait ce cadeau pour l'ouverture parce qu'il l'avait rencontré dans la poésie et moi je le remercie pour ce cadeau parce que c'est un beau cadeau pour l'ouverture du festival.
Je partage votre analyse, effectivement c'était un grand moment. Et puis il y a Julien Delmer qui nous a rejoint. Bonjour Julien, vous allez vous rapprocher du micro, mais le micro ça ne vous fait pas peur, vous avez l'habitude de ça. Vous êtes à la fois un slameur, un écrivain, vous avez animé des ateliers d'écriture. Vous étiez au festival, au spectacle hier soir.
Oui, bien sûr, ouais. Oui.
Et votre avis alors ?
Alors moi c'est tout simple, ça m'a donné envie de lire le livre, donc c'est le principal. Donc j'avais jamais lu, j'ai pas lu La vie devant soi, et là je crois que je vais l'acheter avant de repartir. Donc c'est
un très beau livre. Et puis vous savez que c'est un livre qui a marqué l'histoire de la littérature en France, parce que tout simplement son auteur, qui est Romain Gary, a créé un personnage de fiction qui s'appelle Émile Ajar, qui a eu le culot d'avoir le prix Goncourt. Ça fait que Gary, c'est le seul au monde à avoir eu deux prix Goncourt. Et on a mis plusieurs années après la mort de Romain Gary pour savoir que effectivement Émile Ajar était Romain Gary, qui était un personnage en plus de lui-même un personnage de roman. Vous connaissiez, vous, Claire, La vie devant soi, et puis
je connaissais le texte
et cette histoire incroyable de Romain Gary, Romain Ajar, j'allais dire, tiens, c'est,
et l'histoire du concours et du double,
voilà, une belle, et puis surtout dans ce spectacle, je ne sais pas, chers amis, si vous avez la même réaction que moi, mais d'entendre la voix de Simone Signoret, qui a été une Madame Rosa inoubliable au cinéma, c'est aussi un grand moment d'émotion. Julien, maintenant que le moment d'émotion est passé, on va parler de vous. Vous avez débarqué à Manosque il y a 2 jours à peine.
Hier,
un jour à peine. L'image que vous faisiez de cette ville, la cité de Jean Giono.
Mais à vrai dire, j'avais une image un peu plus précise que ça, parce que j'étais venu il y a 3 ans aux correspondances comme invité pour mon premier roman. Donc j'avais eu l'occasion de découvrir Manosque en apothéose, j'allais dire, pendant ces 4 jours. J'étais resté du début à la fin du festival. Et donc là, revenir aux correspondances, non, pour moi, c'était une joie, ouais, vraiment.
Et revenir à Manosque pendant plusieurs mois. Alors ça,
alors
ça
maintenant,
va être...
Oui, ça c'est le grand projet de 2016-2017, disons fin 2016 et tout le printemps 2017, ça va être les résidences. Ouais.
Alors hier soir, on a passé un petit moment aussi sur le parvis du Théâtre Jean Le Bleu, tous les deux, on a un peu papoté, et il y a déjà des projets qui émergent. Vous êtes à peine arrivé, qu'il y a déjà des personnes qui viennent vous voir en disant « Oh, il va falloir qu'on fasse un truc ensemble ».
Oui, ouais. Ben ça c'est vrai que c'est le signe aussi que les résidences ont pris ici, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens en attente, il y a une documentaliste du lycée international, pas international,
de l'école internationale,
qui est venu me voir, j'ai rencontré les chargés de médiathèque, etc. Donc, non, je vois que mes prédécesseurs ont fait un gros travail d'action culturelle. Et
ils y étaient d'ailleurs tous les deux hier.
Oui, Pierre et Sylvain, oui, ce sont des gens, des amis, puis des écrivains que j'admire beaucoup. Donc voilà, oui, là, il y a des enjeux, là. Je vois qu'ils ont bien déblayé le terrain. Non, moi, j'y vais en toute confiance. À vrai dire, quand j'ai accepté la résidence, quand Olivier Chonlançon m'a appelé cet été, moi, je pensais évidemment au festival, parce que c'était le souvenir que j'en avais de Manosque. Et puis, moi, j'ai vu l'occasion vraiment d'écrire. Moi, là, je suis en train d'écrire un roman, mon prochain roman. Donc, voilà, c'est vrai que ça va être aussi pour moi l'occasion de travailler d'arrache-pied sur les textes. Donc, c'est vrai que je prends assez peu de résidence. J'en ai fait un moment quand j'étais plus jeune. Mais là, j'ai accepté parce que c'est pas très loin de chez moi aussi. J'habite à Avignon. Et voilà, pour moi, c'était vraiment l'occasion de travailler d'arrache-pied. Ça veut pas dire que je ferai l'ours tout seul dans mon appartement, mais il risque d'avoir des moments comme ça. Oui, c'est...
Alors c'est l'un des dangers justement des résidences, et je pense notamment à Yana Perry ou à Robert McLean Wilson, qui nous disaient que il y a tellement de choses à faire à Manosque, et tellement de gens merveilleux à rencontrer et des projets à monter, que effectivement ils n'ont pas le temps d'écrire, quoi.
Et là, ce sera vraiment pas
donc,
le cas.
C'est difficile, donc il faut arriver à vous réserver ce temps d'écriture qui est important parce que c'est le sens de la résidence aussi, de pouvoir vous offrir un peu de temps pour pondre quelque chose.
Ah, c'est évident. Enfin, pour moi, en tout cas, les enjeux sont là. C'est-à-dire, bon, il y a même une... Voilà, normalement, le 80% du temps est réservé à l'écriture et 20% à l'action culturelle. Ça, c'est dans les papiers du CNL. Mais je veux dire, le sens même, effectivement, pour moi, c'est la création littéraire. Il se trouve qu'il y a 4 ou 5 ans, on avait créé en Ardèche, quand j'habitais en Ardèche, une résidence de poésie internationale. Donc, on avait invité des poètes du Sénégal, d'Haïti, de Calédonie. Et nous, on veillait juste... Les résidences étaient plus courtes. Ça durait 3 semaines en immersion complète aussi dans un petit village d'Ardèche, bien plus petit qu'ici, hein, Montpezat-sous-Bozon, à côté d'Aubenas. Et c'est vrai que pendant les 3 semaines, voilà, on essayait vraiment de leur faire 3 ou 4 interventions. Et l'idée, c'était vraiment qu'ils écrivent. Parce que on s'est rendu compte de quoi? Je me suis rendu compte de quoi avec l'équipe à ce moment-là? C'est qu'en fait, du temps vraiment vierge de toute préoccupation pour écrire, les écrivains n'en ont pas. C'est-à-dire que soit on a une vie de famille qui est formidable mais qui prend énormément de temps, soit on est d'intervention en intervention. Moi, j'ai passé l'année dernière là entre deux TGV. Du temps pour écrire sereinement à une table, les écrivains n'en ont pas. Et, ou peu. Ou alors c'est vraiment, à la limite, ce à quoi ils aspirent. Donc pour moi, une résidence, c'est l'occasion enfin voilà, de se dire « oui, je peux me lever à 9h, écrire de 9h à 10h du soir si je veux, ça c'est extraordinaire, parce que j'ai jamais l'occasion de le faire autrement. »
Une belle opportunité donc, et j'espère que ça vous sera profitable, et que ce sera profitable au public. Alors votre public justement, Julien Delmer, il est très varié, parce qu'en fait vous êtes à la fois slameur, vous écrivez, vous êtes poète, et dans votre activité professionnelle depuis à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, vous avez croisé beaucoup de choses très différentes. Vous animez également des ateliers d'écriture, notamment en univers carcéral, en prison. Et je suppose que ça nourrit aussi l'écrivain que vous êtes, ce type d'expérience.
Pour moi, effectivement, l'écriture et les ateliers ont toujours été liés. Moi, j'ai commencé le slam il y a 15 ans. Et dès l'année suivante, je commençais à animer quelques ateliers, d'abord dans les collèges. Et puis, progressivement, effectivement, je suis venu en animer en hôpital psychiatrique et en milieu carcéral. Pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire, même si j'avais cette opportunité d'écrire, de vivre uniquement de la vente de mes livres, ce qui est un mythe, hein, pour la plupart des auteurs, je pense que je prouverais vraiment le besoin d'aller à la rencontre quand même des gens et de faire partager la flamme, tout simplement. Moi, je sais que je peux pas envisager ma vie, mon existence au quotidien sans littérature. Et voilà, la moindre des choses pour moi, c'est de tout simplement de faire partager cette passion. Donc les ateliers, oui, c'est quelque chose qui m'est au final indispensable, parce qu'il y a une richesse d'échange, et puis il y a aussi cette capacité à d'émerveillement que j'ai face à quelqu'un qui crée, qui se croit pas forcément légitime à le faire, qui dépasse cette appréhension qu'il avait au départ de l'écriture et qui l'espace d'un instant, l'espace d'une parenthèse comme ça un peu enchantée se trouve. Et moi, c'est une immense gratification. Ouais. J'ai vraiment l'impression, là, pour le coup, que la littérature a une fonction sociale. Et pour moi, elle est capitale. Cette
Donc, façon. Je suppose que vous encouragez les jeunes qui viennent dans vos ateliers d'écriture, ou bien les personnes qui sont en hôpital psychiatrique, ou alors, évidemment, les prisonniers, à extérioriser et à maîtriser, voire à lire aussi par ailleurs, et donc à s'évader, entre guillemets.
Oui, entre guillemets, parce que c'est vrai que voilà, les ateliers en prison sont très encadrés par l'administration, c'est pas toujours évident, ce qui fait que j'en fais moins d'ailleurs, parce que le problème, voilà, c'est la liberté de création et les exigences des structures pénitentiaires qui veulent avoir un regard, voire même un regard assez parfois inquisiteur sur ce qui se produit en atelier, fait que souvent j'ai senti un porte-à-faux par rapport à ça, donc ça m'arrive de moins en moins souvent, à vrai dire, de faire des ateliers en prison. La dernière fois, j'avais accepté, c'était l'an dernier, à l'invitation du festival du printemps du livre de Grenoble, intervenir dans une section de mineurs, en fait, en détention. C'était passionnant, c'était très touchant, mais quel que soit le public, moi je pense qu'il faut à la fois être modeste, c'est-à-dire qu'on va pas changer la vie des gens, mais leur offrir quand même cette idée que ils sont légitimes à écrire. Moi, je pense que c'est, pour moi, c'est ça l'enjeu essentiel. C'est chacun est légitime à écrire. Après, on ne devient pas Baudelaire, on ne devient pas Marguerite Duras, forcément. Mais il y a ce moment où, on est capable d'extérioriser, comme vous le dites, des choses profondes qui nous habitent. Et cette légitimité-là, il est important de la restituer aux gens, parce que je pense que pour beaucoup, en tout cas dans les collèges et les lycées, souvent où j'interviens, les gens soit ont un rapport carrément de souffrance à l'écriture, hein, ou à la lecture, soit ont un rapport
d'échec,
souvent. Voilà, tout simplement, et se dire que même si quelqu'un n'est pas scolaire, a pas vraiment réussi à rentrer dans le moule, il peut éblouir ses congénères, ses condisciples et ses professeurs et soi-même, parce que voilà, il a cette flamme que tout le monde a, je pense. Ça, c'est vraiment, je l'ai constaté en milliers d'heures d'ateliers d'écriture que j'ai animés, c'est que il y a personne qui soit vraiment incapable à un moment d'allumer l'étincelle, ouais, je pense.
Alors ça, c'est valable pour l'écriture, bien sûr, mais il y a aussi la lecture. C'est quand même le pendant essentiel de l'écriture. Vous conseillez aussi dans les ateliers d'écriture certaines lectures?
Beaucoup, beaucoup. Souvent, on part aussi de textes que j'ai sélectionnés. Ça, c'est très varié. J'aime beaucoup faire des passerelles moi, entre culture classique et culture populaire. Donc ça peut être les derniers gros ateliers que j'ai animés, c'était à Grenoble l'an dernier. On travaillait aussi bien avec des textes de Gainsbourg que de Duras, voilà, et c'était des jeunes.
Ça lui aurait plu ça, Gainsbourg, tiens.
Ouais, je pense. Gainsbourg et Duras, je sais pas,
je pense que oui.
Et voilà, donc moi l'idée, comme on en parlait d'ailleurs hier, c'est voilà de pas considérer qu'il y a des choses qui sont inaccessibles pour certaines catégories, de pas catégoriser et d'essayer de proposer moi ce qui me semble être le meilleur, quel que soit le niveau. Je sais que plusieurs fois des profs étaient surpris de dire que. Oh, comment ça, les jeunes de lycée technique vont bosser sur Kateb Yacine ou sur Aimé Césaire? Ben oui, parce que c'est la manière dont on l'amène qui est important. Et moi, j'y crois. Ces textes-là me brûlent. Donc, j'essaie de faire partager cet enthousiasme. Et en règle générale, ça marche parce qu'il y a pas de texte inaccessible. Il y a des manières de les approcher, je crois.
Julien Delmer, vous êtes présent aux correspondances de Manos, que vous connaissiez, donc on vient de l'apprendre. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 3 jours?
D'avouable, même d'inavouable, je dirais tout à Radio Mistral, fréquence Mistral, pardon. Ce que je vais faire, c'est écrire, parce que là vraiment, j'ai mis le, ça c'est assez rigolo, j'ai mis le doigt là dans l'engrenage, c'est-à-dire qu'il y a quand on écrit un la poésie c'est différent. Je peux écrire de la poésie et penser à autre chose. Là j'ai mis il y a quelques semaines le pied dans l'engrenage d'un roman, et là c'est ça devient obsessionnel. Là. C'est-à-dire que si j'écris pas un petit peu tous les jours, ça, j'ai l'impression je culpabilise, quoi. Donc, j'ai pris mon ordinateur et ma machine à écrire, puisque j'écris sur une vieille Remington. Donc, j'espère pas embêter mes voisins d'ailleurs d'hôtel. Faudrait que je mette un panneau sur la porte.
Et, attention, Remington.
Ouais, Remington, parce que ça fait un sacré bruit. Ouais. Et voilà, donc j'écris. Je compte bien aller voir quelques débats et rencontres. Là, il y a Pierre Ducrozet et Sylvain Prudhomme en tandem, là, cet après-midi. C'est incontournable. Et puis, il y a mes deux amis, Arthur H et Nicolas Repas, qui joue ce soir L'Or des Roses. Donc moi j'avais adoré L'Or Noir, leur précédent spectacle sur la poésie africaine et caribéenne. Donc là je pense que ça va être un régal. Donc je vais sans doute prendre un café avec eux cet après-midi et puis me régaler ce soir. Mais on s'y retrouvera tous, non?
Oui, certainement. Ouais, hein. Il y a des chances, et puis on se verra pendant votre résidence qui démarre quand?
Alors c'est encore officieux. Moi je pense que ça va commencer tout début décembre. Une première fraction, je vais fractionner en fait. Je vais pas faire 2 mois et demi d'un bloc, parce que bon, au niveau de mon organisation familiale, tout ça, c'est pas évident. Et puis je pense que c'est bien aussi d'avoir des temps de. Oui, je mets.
C'est le slammer,
ça, c'est le slammer
qui parle.
Qui,
parle avec
les mains. Ouais, c'est vrai. Ça se voit pas à la radio, mais ça s'entend.
Mais ça s'entend un petit peu.
Ok, donc oui, je vais fractionner. Donc je vais venir, je pense, un petit peu début décembre. Et puis après, à partir de janvier, février, moi, j'aimerais bien finir au beau jour quand même. Venir un peu en juin, parce que je pense que Manos qu'en juin, ça doit être très bien.
Oui, pas qu'en juin, mais c'est pas mal en juin aussi, c'est vrai.
Oh, ouais, moi,
Claire Zara, c'est un beau personnage. Je viens d'Elmer.
Oui.
Elle vous a écouté avec.
J'ai fait connaissance. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de résonance aussi dans ce qui est dit avec notre métier par rapport aux prisons. Effectivement, que chacun a une petite étincelle à animer, et puis qu'une lecture aussi peut animer cette étincelle. Et puis du coup, je pensais aussi à Camélia Jordana et au choix qu'elle a fait La vie devant soi.
Et qu'on attend toujours d'ailleurs.
On attend aussi, c'était un petit appel peut-être. ce texte, elle l'a pas choisi par hasard. C'est un texte qui est fondateur pour elle et pour un détenu. Je me dis qu'il y a cette possibilité aussi de découvrir quelque chose dans une lecture. Je suis très contente. Bah, du coup, on peut en parler là aujourd'hui à la radio. On va commencer à travailler avec la prison de Digne pour leur faire des...
C'est la maison d'arrêt, attention.
La maison d'arrêt de Digne pour réouvrir une petite bibliothèque dans le centre, choisir des livres. Et c'est vrai que on les choisit, ces livres, en disant à chaque fois « Ah ouais, ça, Les Justes de Camus », ouais, moi je vois bien, ça peut faire quelque chose. Mmh. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir du temps à partager avec Julien Delvert cette année et d'avoir peut-être ces petites ces petites résonances.
Oui, c'est une belle chose. Julien, vous avez conscience aussi que, par exemple, dans un milieu scolaire, vous plantez des petites graines comme ça chez les jeunes qui peuvent donner de jolis arbres quand ils seront plus grands.
Ouais, l'image des graines me plaît assez bien parce qu'elle est modeste aussi, qu'elle a en quelque sorte une résonance un peu... J'allais dire botanique, c'est-à-dire effectivement, on ne sait pas ce que la graine va donner, mais de toute façon, elle est semée et après, libre à chacun de la cultiver. Oui, oui, je pense que c'est... Je ne sais pas, sur une classe de 30, combien retiennent et ce qu'ils retiennent, mais je sais qu'il y a toujours forcément un moment ou un autre où, oui, ça porte ses fruits. Donc c'est...
Et des moments plutôt intéressants pour les jeunes. Voilà nos invités qui sont arrivés. Je vous propose de faire une petite pause. On va écouter quelqu'un qui n'est pas là, mais que vous connaissez tous, évidemment. C'est Olivier Chaudançon, qui nous parle du programme du jour. Je remercie Claire Zara d'avoir été notre invitée. Et puis, Julien Delmer, merci encore. Bonne résidence
à vous.
Bonne continuation, Claire.
Merci.
À très bientôt. Olivier Chaudançon nous parle du programme de ce jour.
Olivier Chaudançon, la 18e édition des correspondances est sur les rails. Et c'est parti.
C'est bien parti. Jeudi 22 septembre, on a une journée complète de rencontres. On va démarrer pour les jeunes avec Ariol. Ariol, les adultes ne le savent peut-être pas, mais c'est la star des jeunes. C'est la star des dessins et des albums. Ça a été conçu par Emmanuel Guibert et Marc Boutavant. Et donc, on va avoir un théâtre Jean le Bleu archi plein d'enfants qui vont découvrir sur scène Ariol en lecture, en musique et en dessin. Pour ceux qui sont plus âgés, presque à la même heure, à 11h, un apéro littéraire qui rassemblera Sylvain Patieu et Sylvain Prudhomme. Deux Sylvains, l'un qui est Aixois, donc qui est relativement connu dans le coin, l'autre qui est manosquin d'adoption avec régularité. Sylvain Prudhomme vit à Arles, mais on se souvient qu'il a été en résidence à Manosque, ça a laissé des liens. Et puis l'après-midi, comme chaque fois, on a le choix de démarrer l'après-midi avec une sieste littéraire et acoustique. C'est toujours une très bonne façon de vivre le festival. Je rappelle les règles. Bastien Lallemand qui invite des amis musiciens. Cette année, c'est Camélia Jordana, JP Nataf, Babix. Et puis des écrivains du festival qui viennent. Le public est allongé dans la pénombre. La musique est en acoustique. On alterne les chansons et les lectures de textes. Au même moment, pour ceux qui veulent rester en extérieur, une rencontre avec Clémentine Beauvais, une jeune auteure extrêmement talentueuse qui écrit au fond pour les adolescents. Enfin, c'est en tout cas la ligne qu'elle s'est choisie. Mais moi qui ai lu ce livre, je peux vous assurer qu'il est parfaitement lisible par des adultes et il est même passionnant pour des adultes. C'est une relecture de Jeanne Onéguine, donc voilà, c'est un dispositif littéraire extrêmement malin. Un peu plus tard, 16h30, on retrouve Sylvain Prudhomme pour parler plus longuement de son livre, et puis deux auteurs, Eliza Gorgieva, qui est une jeune auteure de premier roman, et Florence Sevos, qui seront en discussion. Et puis, dernière série de rencontres de l'après-midi, à 18h, François Bégodeau. On est très heureux de le retrouver, je ne sais pas si certains se souviennent de son passage à Manosque pour Entre les murs, où je me souviens que place Marcel Pagnol, il y avait une place entière qui était écroulée de rire par la lecture qu'il avait fait. Ravi de retrouver François Bégodeau. Par ailleurs, ceux qui aiment les croisements entre littérature et musique auront le choix au même moment d'aller écouter Philippe Vasset qui sera accompagné par le groupe Le Colisée, ce sont des Belges. Ou alors Sylvain Patieu, qui sera accompagné par Orso Jezinska. Et puis en soirée, la grande lecture de 21h, Françoise Fabian et Marie-Sophie Ferdan, qui vont incarner le très féroce roman de Régis Geoffrey qui se nomme Cannibal, un roman épistolaire, où une femme qui se sépare de son mari se met à écrire à la mère de son mari, et ça va très mal tourner. Avec pas mal de drôleries aussi. Et puis finir la soirée, il y a une très belle façon de le faire ce jour-là, à 22h30, avec le retour d'Arthur H. et son complice musicien Nicolas Ropac. On se souvient de l'or noir qu'il nous avait présenté, il l'avait créé à Manosque d'ailleurs, il y a quelques années. Et bien là, il y a une sorte de suite, puisqu'il va créer à nouveau à Manosque l'or d'Eros, lecture de poèmes érotiques mis en musique.
Olivier Chaudançon, le directeur des correspondances, qui a bien du mérite de faire ce travail. Et moi aussi, j'ai beaucoup de mérite de faire ce travail avec des pitres autour de moi. Par exemple, l'ami JP Nataf qui est avec nous. Bonjour JP. JP qui fait l'andouille avec un micro.
Non, non, pas l'andouille. Non, non.
C'est un plaisir de vous recevoir, les siestards, comme je les appelle ici même. Il manque évidemment le chef de file.
Bastien qui est sur scène.
L'ami Bastien l'Allemand qui est sur scène et qui viendra peut-être nous voir un de ces quatre. On verra bien. Avec JP, il y a aussi une merveilleuse violoncelliste. C'est Maëva Lebert qui est là. Bonjour Maëva.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir aussi. On va parler des siestes littéraires avec vous et puis de la manière dont vous vivez ces correspondances. Si jamais JP peut bien laisser tranquille ce micro qui lui a rien fait, ce serait pas mal. Mais enfin bon, il est libre de faire ce qu'il veut. Il aura une crampe après à la main. Ça va.
C'est par rapport au lombaire en fait.
Ça va le gêner pour la guitare, JP. Et puis j'ai un grand plaisir d'accueillir Camélia Jordana aussi. Bonjour Camélia.
Bonjour.
J'ai été transporté hier soir du spectacle que vous avez donné avec vos deux musiciens sur La vie devant soi. Évidemment, c'est un texte qui nous parle. Ce sont des personnages qui nous parlent, surtout Émile Ajar et Romain Gary, Madame Rosa. Évidemment, d'entendre la voix de Simone Signoret dans un montage sonore au début et à la fin du spectacle, c'est une émotion évidemment qui nous a profondément marqué. On en parlait tout à l'heure avec Claire Zara. Pourquoi est-ce que vous avez repris ce texte?
Il se trouve que c'est un bouquin qu'une de mes plus grandes amies m'a offert pour un anniversaire. C'était peut-être, je pense, mes 18 ou 19 ans. Et c'est le bouquin en fait qui m'a réouvert à la littérature en tant qu'adulte, quoi, que personne avec un cerveau dans le monde et tout ça. Et c'est un bouquin qui m'a bouleversée. Alors avant ça, j'avais déjà lu La promenade de l'aube, que j'avais beaucoup... La promesse, pardon. Merci. La promesse... JP qui est en train de faire un petit
avis. Il fait l'andouille encore.
Pardon, je me suis réveillée il y a très peu de temps, excusez-moi. Je vais vous livrer les mots comme ils arrivent. Non, donc oui, j'avais déjà lu La promesse de l'aube, dans lequel il parle de sa relation à sa mère, de la Russie, de Nice, du Negresco, tout ça, qui est magnifique. Et en fait, c'est vrai que sous Émile Ajar, en fait, Romain Gary s'autorisait des choses qu'il faisait pas forcément en son nom propre, quoi, justement. Et d'autant que c'est en plus c'est un personnage omniscient et c'est un enfant, quoi. Donc c'est Romain Gary qui se met dans la tête d'un enfant.
Vous vous sentez proche justement de Momo ou de Madame Rosa, de ces personnages?
Ah, je me sens plus proche de Momo que de Madame Rosa hein, dans l'absolu, mais je peux pas dire que je me sente loin d'elle non plus. C'est quand même une femme qui m'aime beaucoup.
Et puis il y a des drames qui sont en filigrane dans ce livre, hein, aussi bien Auschwitz que ses enfants perdus, abandonnés, qui sont nés de travers, c'est comme ça qu'il dit, hein, qui sont vraiment qui poussent un peu n'importe comment, et des enfants de toute la planète aussi.
Des enfants de femmes qui se défendent en fait, oui, ce sont des enfants de putains qui se retrouvent à aller travailler en province, là où ça paye le plus, comme il dit. Et puis, du coup, elle laisse leur gamin dans une espèce de foyer à Madame Rosa, qui elle-même est une femme qui se défendait à l'époque.
Et qui a vécu Auschwitz et qui est marquée
qui a vécu
par ça.
Plein de trucs hyper drôles. Oui, Madame Rosa, ça. Elle avait un joli karma, je crois.
Oui, la pauvre. Et vous étiez sur scène avec deux musiciens, avec Laurent Barden et Antoine Mongaudon, qui est un de vos complices habituels.
Les deux, oui.
Comment avez-vous orchestré, entre guillemets, ce spectacle avec un débit qui est très rapide au niveau du texte que vous lisez, qui est très actuel aussi, et en même temps des chansons dont certaines nous frappent à l'oreille un petit peu. Quand on chante en yiddish, évidemment, ça nous titille. Des chansons qui font appel à des souvenirs. Par exemple, je me souviens avoir entendu Bonga chanter une chanson que vous utilisez. Et donc, on est tout de suite en Afrique, quoi, là. Et puis, une chanson qui fait référence plutôt à une situation d'un cow-boy en Amérique, plus ou moins solitaire, des chansons françaises. Comment vous avez choisi vos illustrations musicales?
Disons que c'était la première lecture musicale que je faisais seule, sans comédien ou sans interprète pour m'accompagner à la voix en fait ou à la lecture. Et du coup, je sais pas pourquoi, c'est comme si forcément en fait, pardon, mais j'avais moins de pression et ça a été assez fluide en fait. lu et relu et relu et relu et relu le bouquin. Je l'ai mangé, puis digéré, puis rêvé et tout ça. Et puis, il y a un moment où j'ai fait mon découpage, puis un montage. Et au moment où j'avais mon montage et une espèce de fil rouge comme ça dans les parties que j'avais envie d'imbriquer les unes un peu avec les autres, du coup, il y a une espèce de logique qui est venue assez naturellement avec des morceaux miroirs qui pouvaient faire écho ou nourrir un petit peu ce que je racontais à ce moment-là du livre.
C'est un peu à l'image de cette pension de Madame Rosa,
d'ailleurs.
Oui,
hein, exactement.
Avec des univers différents, avec des harmonies aussi différentes et en même temps très prenantes parce que tout le monde le sait, évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre, vous avez une fort jolie voix.
Merci.
Vous avez beaucoup de talent en tant qu'interprète, mais aussi vous écrivez de temps en temps et vous composez, et ça aussi c'est une bonne chose. Donc c'est un personnage qui certainement, là je vais me tourner vers JP, qui lui est un vieux briscard de la scène. C'est un personnage...
Alors vieux briscard
c'est un personnage en devenir là qu'on a à côté de nous, JP.
J'aurais dit ça il y a 5 ans, parce que là c'est...
Ça y est, c'est déjà fait.
C'est complètement devenu.
Elle est même passée. Non,
non,
ah,
non, non, non,
c'est
dépassé. Asbine, la petite.
Elle est en pleine possession de sa palette.
Ouais.
Non, mais je trouve que Camélia, on sent qu'elle a digéré très, très, très bien. Il y a un disque dur. Bon, ça, c'est les jeunes générations, je pense. Je ne sais pas si c'est l'accès à toutes les musiques un peu plus facilement que nous, il y a 30 ans, quand on cherchait un disque, il fallait quelquefois, ça prenait 2 ans. Parce qu'il fallait trouver l'objet physique.
Et ça coûtait cher.
Oui, enfin, c'était vraiment une quête. Là, c'est vrai que moi, j'ai remarqué, enfin, j'ai travaillé avec des chanteuses à peine plus âgées qu'elles, et ils ont accès tout de suite dès qu'ils se trouvent. Il y en a un qui découvre une chanson brésilienne en 3 semaines. Ils reviennent, ils connaissent Caetano Veloso, Chico Buarque, Los Mutantes, tout ça. Enfin, il y a tout ça à portée de main. Mais après, faut en faire quelque chose. Enfin, faut bien l'utiliser. Faut avoir le temps de le digérer. Camélia, on sent qu'il y a déjà le disque dur. Et encore, il y a des trucs qu'elle connaît pas. Quelquefois, elle me dit, ah, mais ça, c'est vrai, je connais pas. Il faut que je connaisse et tout. Mais c'est incroyable. Et puis, en plus, je crois que ça t'amuse aussi très vite de voir comment c'est fait. Ouais. T'as un truc très, comme les petits garçons avec les mécanos. Elle aime bien. Elle est très, très mécanicienne quand même de la voix, des voix d'où qu'elles viennent. Donc, elle s'approprie très, très vite des styles et tout. Et hier, c'était super de naviguer entre Johnny Cash et une chanson en hébreu. Et avec pas en touriste, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il n'y avait aucun artifice.
Je dis ça, je l'aime pas.
un éclairage très, très sobre. Et en même temps, on va essayer de rester sérieux. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile parce que c'est des personnages que j'adore. En plus, les 3 personnes qui sont autour de moi.
Puis on est vraiment 3 vieux copains, donc c'est un peu dur de...
Pas si vieux que ça, Camélia, s'il vous plaît. Là,
non,
s'il
mais
vous plaît.
Bon.
Alors, revenons au spectacle. C'est vrai qu'il y avait d'abord l'importance du texte qui était fondamentale, mais aussi c'était très sobre. Vous avez pas bougé d'un iota ou presque pas. Les musiciens, c'est pareil. Si, il y a simplement eu un changement de clavier saxophone 2 fois, pas plus, mais on n'a pas besoin d'artifice en fait. Et c'est vrai que votre talent a éclos lors d'une émission télévisée très connue, où là, par contre, c'est l'artifice qui prévaut très souvent. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Nous, ça nous fait plaisir de voir quelqu'un qui chante des choses intelligentes, qui a du talent, qui s'exprime et en même temps qui fait rire JP. Donc ça, c'est quelque chose
ça
de magnifique.
Fait pleurer, pardon. Ça ne me fait pas que rire. Là,
oui.
Là, à 7h du matin, et puis on a notre journée devant nous, parce qu'on va travailler tout à l'heure.
Alors voilà,
donc
justement.
On est détendu.
On va parler de vos siestes, chers amis. C'est ce concept qu'a développé notre ami Bastien Lallemand, et auquel vous participez, JP depuis déjà plusieurs années, Maëva également, Camélia depuis l'année dernière.
Comment...
Non,
déjà.
Malheureux.
Déjà. Oh, voilà. C'est
mais
de
oui.
Depuis quand?
Oh, ça fait au moins 5 ans, je pense.
5 ans qu'elle fait
la
sieste ici, c'est incroyable.
Ouais.
Ah oui, mais.
Nuit blanche, c'est 5 ans, quoi.
Ouais. 4-5 ans, oui, 4 ans au moins.
Donc, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce principe où chacun vient avec soit un texte, soit une chanson, et on s'allonge en plus, et on écoute?
Qu'est-ce qui Maëva. C'est Maëva qui m'intéresse
allez.
Là-dedans. Non, mais c'est un format que j'adore, moi. C'est un format que j'aime beaucoup. Déjà, ce qui est chouette, c'est que je sais qu'à chaque fois, je retrouve les copains. Et ça, c'est quand même toujours très cool. Et en plus de ça, voilà, on a un répertoire. L'idée de bah, comme le disait JP tout à l'heure, en fait, de croiser un peu tous nos genres qui sont pas non plus si éloignés que ça, mais voilà, l'idée c'est un peu de croiser nos répertoires respectifs. Et c'était pas facile, ça.
Il y a aussi à un moment une part d'improvisation, notamment aux correspondances de Manosque, où les auteurs viennent se mêler à votre dynamique, et ça c'est pas mal. JP, je me souviens par exemple de Simonetta Greggio qui nous avait lu une lettre magnifique. Vous y étiez là.
Ouais.
Oh, c'était à pleurer tellement c'était beau, c'était magnifique, et elle-même a fini en pleurant, et elle venait d'écrire sur sa jambe un texte comme ça juste avant. Et là aussi, on a des moments qui sont des moments magiques, parce que tout d'un coup, il y a une création qui se crée et qui se fait là sous nos yeux, et de manière instantanée. C'est superbe.
Moi, j'allais dire, de toute façon, une vie de musicien réussi, c'est quand, au bout d'un moment, comme on dit, on retrouve les copains. En fait, artistiquement, on va dire, sauf qu'on n'a vraiment pas les mêmes goûts, qu'on vient d'univers très différents, on arrive toujours à se mettre d'accord sur ce qu'on va chanter. Ça, c'est pas difficile. Il y a tellement de belles choses. Il y a tellement de... Donc, en fait, au bout d'un moment, je trouve que je crois que les siestes, c'est aussi effectivement l'occasion de nous retrouver. Après, l'argument, on le trouve facilement. Si on invite, comme on est à Manos, qu'on se plie au jeu d'inviter des auteurs, c'est un peu la base. Nous, on découvre, parce qu'on n'a pas lu tous ces livres d'auteurs contemporains, parce qu'on est musicien et qu'on n'a pas le temps on n'est pas critique littéraire. Donc c'est amusant de les découvrir et puis de voir le chemin qu'ils font pour venir vers nous, parce que quand on est écrivain, on n'est pas forcément un bon diseur non plus. La tradition orale, ça s'est un peu perdu et tout. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se fait. C'est assez musical hein, quand on écrit. En fait, nous, on écrit des chansons. Ils écrivent des choses qui sont faites pour être lues. Mais ceux qui acceptent de jouer le jeu, de venir dans une sieste, en général, c'est qu'ils ont envie de musique. Ils ont envie de faire sortir la musique de ce qu'ils ont écrit.
Et le public se régale. C'est ça aussi qui est bien.
Le public se régale.
Qui est allongé avec des coussins.
Oui,
et tout,
si elle ne se régale pas, il dort. Mais c'est un des rares endroits où il a le droit de dormir sans que ce soit mal vu.
C'est vrai.
Quand je fais un concert et que je vois quelqu'un qui dort au deuxième rang, c'est pas très excitant. Un jour, je suis arrivé au Printemps de Bourges. Il y avait une dame qui dormait déjà avant le début. Et j'ai pas réussi à réveiller. Et ça m'a énervé prodigieusement.
Pourtant, ça doit faire du bruit. J'y vais sur scène au Printemps de Bourges. Ça doit déménager quand même.
Mais là, c'est vrai que c'est l'idée. Et puis, moi, je me mets à leur place. Je trouve ça hyper agréable, quoi. Je trouve ça terrible, la dictature du fauteuil rouge, un peu dans lequel on bouge sans arrêt quand c'est un concert un peu chic. Dans un beau théâtre, et puis la dictature de debout avec son sac et son manteau et une bière à la main quand c'est un concert de rock. Depuis des années, c'est ça, quoi. Alors que la musique, on l'écoute chez soi, on l'écoute une fois dans le canapé, une fois en passant l'aspirateur, en téléphonant. On n'est pas obligé d'avoir le nez dessus, et la sieste abolit quand même déjà ce truc de toujours récompenser d'applaudissements après chaque chanson. Et puis même au niveau des égos, ça finit par diluer tout, parce que les gens, pour peu qu'ils jouent le jeu et qu'ils ferment un peu les yeux, à la fin, ils ne savent pas qui a chanté quoi. Et je trouve ça assez agréable, parce que nous, de notre côté, il y a une pression qui est de réussir un objet parfait d'une heure et quart, où effectivement, il n'y a pas trop de hiatus. Mais en même temps, on se fond dans cette espèce de truc collectif, de transe un peu douce, une transe un peu... Ouais, c'est même pour nous, c'est un peu comme un rêve quand ça se passe bien.
Avec en plus le fait qu'il n'y a aucune barrière entre le public et les musiciens ou les auteurs qui sont présents. Donc ça, c'est important aussi.
Oui,
en tout cas, le public le ressent, ça.
Oui, c'est vrai,
Et puis après la sieste, on peut aller discuter avec Camélia Jordana avec JP. C'est pas mal.
Oui, mais ça, c'est quand même courant dans le monde du Kafkons, du bar, de toutes les musiques qui sont jouées dans le... Voilà, moi j'ai vu des groupes de rock dont j'étais fan à 15 ans en allant les voir jouer dans des clubs. Après, on pouvait boire un coup avec eux. Ça, c'est plus des formats, quoi. C'est sûr que si on joue dans des zéniths ou des grands théâtres, loges sont d'autres accès, on les voit pas, mais ça c'est autre chose, c'est plus le star system.
Alors on va parler tout à l'heure avec vous, JP, de votre activité débordante de ces derniers mois. Maëva Lebert, qui est violoncelliste et qui, elle, amène son archet et son âme, c'est le cas de le dire, à ces siestes littéraires. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de ces siestes, Maëva?
En fait, c'est quand même un endroit où on raconte des histoires, que ce soit là les auteurs à Manosque ou dans les chansons. Donc moi, j'adore l'idée que les gens s'allongent pour écouter des histoires. Ils peuvent s'y glisser, s'endormir, effectivement, et pas être attentifs à chaque chose de ces histoires-là, mais une espèce de grand massage sonore avec quelqu'un qui te raconte des histoires au coin de l'oreille. Et ça, je trouve ça assez dingue. Et en fait, effectivement, c'est... se retrouver, faire ça. Enfin, il y a un truc d'écoute, que ce soit pour le public ou entre nous,
le format, le fait que ce soit acoustique et qu'on soit très très proche du public, mais aussi entre nous et qu'il n'y ait pas des amplis hyper forts, une sono, tout ça, on est vraiment dans un truc d'écoute, et même si on connaît quand même le répertoire des uns et des autres, c'est à chaque fois différent parce que se joue sur ce qui se passe à ce moment-là. Et ouais, y a
c'est une playlist quand même, hein. Y a quelque chose d'un peu moderne dans la sieste. C'est qu'on n'écoute pas le même chanteur exposer ses états d'âme qui peuvent être passionnants quand c'est des grands artistes, mais il y a ce côté menu dégustation qui est assez agréable. Et quand il y a les auteurs, je trouve que c'est vraiment un voyage, c'est chouette. On prend vraiment des informations qui viennent de plein de cerveaux différents, de plein de cœurs différents. Et
du coup aussi, une sieste n'est pas égale à l'autre. Et non. C'est chaque fois différent. Et ouais. Ça, c'est super.
Et ce qui est bien, c'est que voilà, la vocation première, c'est de calmer un peu les gens. Ils sont dans une situation particulière avec des coussins dans le noir. Et nous aussi, on est dans une semi-obscurité. Mais en fait, il y a une vraie agitation. Si on est un peu à l'écoute, on traverse quand même des trucs dingues entre certains auteurs. Ce qui est amené à manger est quand même. Et puis nous, on a beaucoup de liberté dans les siestes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se tenir à notre répertoire. On peut faire des reprises. En fait, ça se décide très très tôt. À 13h, 2h avant la sieste, on n'a rien de prêt. Donc il y a quelque chose de très.
Mais comme disait Camélia, vous touchez dans le répertoire de chacun et effectivement après vous faites un espèce de patchwork particulier. Et en plus, viennent se greffer les textes des auteurs, c'est pas mal. Et des instruments particuliers. Alors, quand on écoute une suite de Bach, par exemple, c'est votre instrument, le violoncelle, Maeva. Et là, votre violoncelle, il sert de soutien à des chansons. Il va s'immiscer dans des harmonies un peu particulières. Ça vous demande un effort particulier? Ou alors, c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement que de mêler le son du violoncelle à une chanson de JP, par exemple?
Le son du violoncelle à une chanson de JP, c'est toujours particulier, JP. C'est très particulier.
J'en étais sûr.
Mais ça fait quand même longtemps que ça arrive très régulièrement. Non, on se connaît très bien. Et au-delà de ça, le violoncelle dans la chanson, autour de lecture, dans la pop, c'est vraiment ce que je fais beaucoup plus que du répertoire classique depuis...
Je vais me tourner vers JP.
C'est violoncelliste dévoyé.
Oui, justement, nos oreilles depuis 30-40 ans, JP, ont beaucoup évolué parce que dans la chanson, on entendait assez rarement des cordes et en tout cas un violoncelle. Et là, maintenant, c'est devenu.
Non, il y a eu très peu de temps où il n'y a pas eu de cordes. Moi, je dirais plutôt le contraire.
Attention, la grande tradition quand je dis cordes, je ne dis pas un ensemble de cordes, mais disons juste un instrument soliste qui viendrait jouer une mélodie. Je n'ai pas souvenir dans les années 80 ou 70.
Dans les années 80, vous prenez un mauvais exemple. Il n'y avait rien dans les années 80.
Alors, qu'est-ce qui devient justement l'ancien des Innocents qui remonte sur scène avec ce groupe JP? Beaucoup d'activités, hein?
Beaucoup d'activités, oui. On a reçu un accueil très bienveillant. On a retrouvé un peu des amis perdus de vue qui ont fait des enfants qui viennent aussi. Et du coup, il y a quand même pas mal d'excitation à pas jouer. C'est vrai qu'on avait très très peur de remonter le projet parce qu'on avait peur de rouvrir une espèce de grosse boîte remplie de vieux jouets et puis de tirer sur cette corde de nostalgie. Donc on a attendu d'avoir vraiment très envie. On a consolidé notre envie, on a consolidé notre amitié avec Jean-Christophe, mon partenaire. Notre complicité n'était pas du tout érodée. Ça, c'était quand même la base. C'est quand on s'est retrouvés, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait toujours le même plaisir à jouer de la guitare et à chanter ensemble, qu'il y avait une horloge qui n'avait pas bougé. Enfin, il y a quelque chose de très, très intuitif, comme des copains de randonnée qui auraient toujours le même pas. Enfin, il y en a pas un qui était fatigué, il y en a pas un qui était parti trop loin. Et pourtant, on a vraiment on a expérimenté beaucoup de choses pendant les 10 ans où on n'était pas ensemble. Et puis, il y a ce truc. Le plaisir était intact de notre côté. Et après, les premiers concerts, tout de suite, ont fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, j'allais pas dire une attente, parce que si vous n'êtes pas là, les gens, au bout d'un moment, ils ont vraiment autre chose à faire. Moi, c'est de la même façon. Je ne peux pas dire que j'attends un album ou un concert d'un artiste. Il y a tellement à voir et à entendre. Mais il s'est passé un truc un peu magique, quoi, parce que tout le monde revenait avec une histoire particulière par rapport à notre répertoire. Les chansons étaient très présentes pendant qu'on n'était pas là, nous. C'était comme si on était partis en voyage, et puis il y a un truc qui continuait à se faire.
C'est le public qui vous a pas oublié, quoi, tout
simplement. Le public, ça veut rien dire, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu une histoire avec une de nos chansons à un moment, et donc pour qui un passage dans leur ville, c'est l'occasion de revenir avec leur conjoint, avec leur enfant, je sais pas quoi. Il y a une histoire qui se raconte autour d'une ou deux chansons. Et puis après, oui, effectivement, il y a des fans qui font que la salle est quand même remplie et qu'on peut jouer une heure et demie et pas juste la chanson que les gens attendraient. Mais on a quand même de la chance parce qu'il y a effectivement des artistes qui ont eu un gros tube dans leur carrière. Nous, on en a eu 5 petits. Et en fait, du coup, ça permet quand même de jouer une heure et demie, deux heures sans qu'il y ait ce truc de pression, d'attente de la chanson ultime. On est un peu comme Patrick Bruel, quoi. En fait, on a...
Quelle belle comparaison.
Il y a plusieurs moments où les gens font...
JP, voilà. C'est ça qu'il faut crier. Hein.
Mais en fait, ça se passe bien. Et du coup, la belle récompense, c'est qu'on a fait un disque qui n'a pas non plus défrayé la chronique, parce que les disques ne défraient plus tellement la chronique, enfin, très peu. Mais on fait la plus grande tournée de notre vie, on fait des voyages incroyables, et puis surtout, on joue dans des endroits très différents. Il y a quelque chose, de vraiment doux, de vraiment bienveillant.
C'est bien, c'est une voilà. Bonne chose. En tout cas, c'est une bonne renaissance qui nous plaît bien. Donc de dire, tiens, voilà. Ils sont pas morts, mais ils sont toujours là, au contraire.
Voilà, alors il n'y a qu'un petit bémol à tout ça quand même, c'est que du coup, je rate un nombre de siestes incalculable.
Eh oui, alors la sieste, justement, c'est tout à l'heure, c'est à 15h, chers amis. Hein. Vous y êtes tous les 3, tous les 4, même avec un certain Babix, si j'ai bien compris.
Ouais.
Et comme il est... aujourd'hui, en
fait. C'est vrai.
Et comme il est... Comme il n'est pas là, je vous propose de conclure cette émission en l'écoutant, Babix et ses Laiderons. Et évidemment, vous connaissez, hein, c'est ses petites amoureuses, c'est Rimbaud qui l'a inspiré dans ce superbe album qui a été produit par la Maison de la Poésie, évidemment, à Paris, d'Olivier Chaudançon. Babix, qui est un peu votre Pygmalion, on peut dire ça comme ça?
Non,
pas du tout. Hein, vous ne le connaissez pas?
Non, ce qui est... Bah, comment?
Comment?
C'est vrai qu'il a été une espèce, enfin, il a été même pas une espèce, il a été mon mentor sur ses deux précédents albums et c'est vraiment un grand ami très précieux. Mais ça y est, je vole de mes propres ailes.
C'est bien, c'est une belle chose. Embrassez-le de notre part.
Ce sera fait.
À bientôt. Merci à tous les trois. Bonne sieste et bonne correspondance.
Merci
aussi à Emeline pour la régie. Dans un instant, les infos du monde. C'est pas terrible en ce moment ce qui se passe dans le monde, comme toujours. Mais en tout cas, sur Manos, il se passe des choses magnifiques. Merci, à bientôt et on écoute Babix.
Merci, à bientôt.
Un hydrolat lacrymal lave, les cieux verts chauds, sous l'arbre tendronnier qui bave au caoutchouc. Blanc de lune particulière, au pied à la ronde, entrechoquez vos genouillères, mais l'aileron. Nous nous aimions à cette époque, bleu l'aideron, on mangeait des œufs à la coque et du mouron. Tu me sacras, poète blond, l'aideron descend ici que je te fouette en mon giron. J'ai dégueulé ta bandoline, noir l'aideron, tu couperais ma mandoline au fil du front. Ah, mes salives desséchées, roux l'aideron, infecte encore les tranchées de ton sang rond. Mes petites amoureuses, que je vous hais, plaquées de fouf douloureuses, vos tétons lait, piétinez mes vieilles terrines de sentiments. Hop donc, soyez-moi ballerine pour un moment. Vos omoplates se déboîtent, oh mes amours, une étoile, la vorin qui boite, tournez vos tours. Et c'est pourtant pour ces éclanches que j'ai rimé. Je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé. Fadama des poils ratés, comblez les coins, vous crèverez en Dieu, beauté d'ignoble soin. Sous les lunes particulières, au pied à la ronde, entrechoquez vos genouillères. Mais là,